débats de Radio Axor. Animé par Michael Lassen.
Bonsoir à toutes et à tous, vous qui nous écoutez sur Radio Accor, et bonjour à vous qui êtes venus assister à l'enregistrement de cette émission ici à Minigout pendant le Festival international du film ornithologique. Une émission réalisée en partenariat avec Poitou-Charentes Nature et dont le thème est « Les invasions biologiques, une question de nature et de société ». La quasi-totalité des régions françaises est concernée par le développement d'espèces envahissantes, animales ou végétales, exotiques ou indigènes qui colonisent les campagnes, les rivières, les plans d'eau, qui s'installent le long des routes et qui prolifèrent sur le littoral. Ces invasions biologiques peuvent avoir de graves conséquences sur la biodiversité, sur la santé humaine et sur l'économie régionale, notamment en regard du coût lié à la restauration d'écosystèmes, par exemple, ou d'habitats. Des traitements médicaux pour soigner, par exemple, les allergies provoquées par l'ambroisie et la baisse des rendements agricoles et aquacoles. Ce phénomène, déjà devenu préoccupant depuis plusieurs dizaines d'années, avec l'introduction par exemple du ragondin, de l'ambroisie et de nombreuses autres espèces, s'accélère actuellement en raison de l'activité humaine. Il revient maintenant à la société d'en gérer les causes et les conséquences. Comment prévenir de nouvelles invasions biologiques? Comment évaluer les risques qu'elles représentent et que peut-on faire pour lutter contre les invasions en cours? Pour en parler, nous sommes en présence de Jean-Louis Chapuis. Jean-Louis Chapuis, bonsoir.
Bonsoir.
Donc du Muséum d'Histoire Naturelle, avec qui nous examinerons l'exemple des écureuils invasifs. Michel Caillon est également parmi nous. Bonsoir. Donc de vice-président de Poitou-Charentes Nature, et vous nous parlerez des invasions biologiques en Poitou-Charentes. Et Jacques Pigeot, bonsoir.
Bonsoir.
Donc de l'Université de La Rochelle, vous êtes retraité, vous représentez littoral, environnement et société, le lien. Vous êtes chercheur à la retraite et vous nous parlerez des espèces marines introduites et invasives sur les côtes de Charente maritime. Alors débutons avec vous, Jean-Louis Chapuis, avec les écureuils, donc espèces invasives en Europe. Alors avec une première question, quelles sont les espèces concernées et comment sont-elles arrivées en Europe?
Alors en fait, on a cinq espèces qui ont été introduites en Europe. D'une part, la plupart d'entre elles ont été introduites par des particuliers qui, en tant qu'ils avaient ces animaux chez eux, en tant qu'animaux de compagnie. Alors ça, c'est la principale des causes d'introduction. Et l'autre cause d'introduction, c'est l'implantation de ces animaux en tant qu'animal d'ornement.
Mais combien de temps qu'elles sont arrivées en...
Alors, en ce qui concerne l'écureuil gris, qui est une des principales espèces qui a le plus grand impact en Europe, l'écureuil gris a été introduit au cours de la fin du 19e siècle, à partir de 1876 en Grande-Bretagne et en Angleterre, en 82 en Écosse et en 1913 en Irlande. Donc ça, c'est l'introduction la plus ancienne en ce qui concerne donc les écureuils en Europe. Des introductions plus récentes remontent aux années 60. C'est le cas de l'écureuil de Corée, donc le petit écureuil qu'on peut acheter encore dans les animaleries en France. Donc les premiers individus ont été vendus en Europe au début des années 60 et on les a retrouvés en nature à la fin des années 60. Autre espèce présente en France, l'écureuil à ventre rouge, qui lui aussi a été introduit par un particulier sur le Cap d'Antibes et à la fin des années 60 aussi. Donc on se situe à peu près, le début des introductions des écureuils se situe à peu près à cette...
Alors à chaque fois, c'était des animaux de compagnie introduits par des particuliers majoritairement qui finissent par s'échapper de leur cage où ils colonisent.
C'est à peu près ça. Disons que donc en ce qui concerne l'écureuil de Corée par exemple, c'est des animaux qui paraissent sympathiques. Les parents achètent un couple pour leurs enfants et très rapidement on s'aperçoit que ces animaux ne sont pas des jouets, ce ne sont pas des peluches, on ne peut pas les manipuler, ça mord. Donc on ne peut pas en faire grand-chose. On s'aperçoit très rapidement aussi que l'animal il est malheureux dans sa cage. Les écureuils sont des animaux hyperactifs qui n'ont pas leur place en captivité. Et donc ben, l'animal tourne sans cesse en rond dans sa cage. Bon, ça désole un peu toute la famille. Et puis, généralement, alors il y a le cas aussi où ça se passe bien. C'est-à-dire que les écureuils sont en bonne santé, ils se reproduisent. Une femelle peut faire 2 portées par an, des portées de 4 individus. Donc très rapidement dans la cage, on peut avoir une dizaine d'animaux. Ils ne supportent pas très bien, donc ils se battent, ils se tuent, voire ils se mangent. Donc là, c'est le drame dans la famille. Il faut faire quelque chose. Alors les gens, généralement, n'ont pas le courage de tuer ces animaux. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ben, ils les prennent et les mettent dans les forêts qu'ils ont l'habitude de
donc,
fréquenter.
Ce sont des animaux qui vont s'habituer à notre climat, à notre environnement.
Oui, l'écureuil de Corée, c'est un animal qui a une très large distribution à travers le monde. En fait, il est présent... il est présent sur toute la Sibérie, donc toute la Sibérie, en Mongolie, en Chine et sur la péninsule de Corée. Donc c'est un animal qui a une très large distribution à l'origine.
Alors si on reprend le cas de l'écureuil gris dont vous avez parlé, qui lui est présent en Grande-Bretagne et en Italie, quel type de dégâts est-ce qu'il va occasionner sur notre environnement ?
Alors, le principal problème de l'écureuil gris, c'est que, en quelque sorte, il a éliminé totalement l'écureuil roux de Grande-Bretagne. Donc, très rapidement, à partir du milieu du XXe siècle, les populations d'écureuils roux ont régressé. Et actuellement, l'écureuil roux n'est présent pratiquement que dans le sud de l'Écosse, nord de la Grande-Bretagne. Alors, les raisons de cette élimination de l'écureuil roux par l'écureuil gris, bon, il y a 3 hypothèses. C'est une compétition pour l'alimentation, des relations agonistiques, comportementales, des batailles entre les deux espèces. Et la troisième hypothèse, c'est des relations parasitaires, c'est-à-dire une maladie portée par l'écureuil gris qui affecterait l'écureuil roux. En fait, le principal facteur, c'est le facteur alimentaire. Et les écureuils gris sont des espèces qui peuvent être présentes en très forte densité dans les forêts de feuillus. Les forêts de feuillus, c'est un habitat idéal pour l'écureuil gris qui profite pleinement des ressources, d'où il peut être présent en très forte densité. Et inversement, l'écureuil roux, ce n'est pas son habitat idéal. Les forêts de feuillus, ce n'est pas forcément ce qu'il recherche, donc il est moins bien adapté. Comme les écureuils roux sont très abondants, ils mangent toutes les ressources en quelque sorte. Et chez les écureuils, s'ils n'ont pas de ressources, ils ne se reproduisent pas. Donc il suffit de quelques années où les roux n'ont plus de ressources et finalement ils ne se reproduisent pas et ils disparaissent.
Est-ce qu'il a un impact sur d'autres espèces ?
Ah oui, comme tous les écureuils, ils ont un impact sur les communautés aviaires, sur les oiseaux, mais l'écureuil roux aussi. Mais l'impact important de l'écureuil gris est lié à ses densités. L'écureuil roux est présent en faible densité dans les forêts de feuillus, donc il a un impact, mais c'est négligeable, tandis que l'écureuil gris est présent en forte densité, donc son impact est important. Donc impact sur les oiseaux.
Alors, est-ce qu'il a un impact économique ?
Par contre, l'impact économique là est très important. Son principal problème à cette espèce, c'est qu'il écorce les arbres et il fait des dégâts énormes. En fait, les dégâts sont évalués à 12 millions d'euros par an pour la sylviculture actuellement en Grande-Bretagne. Donc, c'est un impact économique énorme. En fait, dès que l'arbre est écorcé, les champignons, les parasites viennent se mettre sur ces blessures et l'arbre n'a plus aucune valeur économique.
Ça, c'est une spécificité de cette espèce. Le roux n'a pas ce type de comportement.
Alors, il peut avoir ce type de comportement, mais très momentanément et peu important. Mais là encore, c'est une question de densité. S'il y a un tout petit peu de dégâts, on ne s'en aperçoit pas, parce que s'il y a beaucoup d'individus qui créent beaucoup de dégâts. Bon, quoi qu'il en soit, l'écureuil gris écorce beaucoup plus que l'écureuil roux.
Est-ce que dans son milieu d'origine, en Sibérie, par exemple, il pose le même type de problème ?
Alors, l'écureuil gris est originaire d'Amérique du Nord. Il est originaire d'Amérique du Nord. Sur son aire d'origine, il ne pose pas ce type de problème. Parce qu'en fait, il n'est pas présent en aussi forte densité qu'en Grande-Bretagne, tout simplement parce qu'il y a tout le cortège de prédateurs qui accompagne l'écureuil gris sur son aire d'origine et qui ne sont pas présents en Grande-Bretagne. Et aussi, il y a une très... une communauté d'écureuils qui est très importante en Amérique du Nord. Il peut y avoir une vingtaine d'espèces d'écureuils qui vivent dans une même forêt ou dans une même région, alors qu'en Angleterre, il n'y a qu'une espèce d'écureuil gris,
Ouais.
d'écureuil
Et
roux.
si donc on prend le cas maintenant du tamia qui lui est originaire de Sibérie et qui est présent en France.
Alors, pour le tamia de Sibérie, c'est complètement autre chose. Là, pour l'écureuil roux, comme on va le voir un peu plus tard pour l'écureuil à ventre rouge, on a des problèmes qui sont impact sur la biodiversité et impact sur les arbres. Pour l'écureuil de Corée, c'est un impact, c'est son rôle sanitaire qui est important. Si, ça serait mieux de présenter d'abord l'écureuil à ventre rouge, qui est une espèce. Pour un mot, pour finir sur l'écureuil gris quand même, l'écureuil gris n'est pas présent encore en France. Toutefois, on l'attend, dans la mesure où cette espèce a été aussi introduite en Italie et en fait dans la région de Turin, et la population italienne est en train de croître. Et il est prévu que l'écureuil gris arrive chez nous très prochainement, c'est-à-dire d'ici une dizaine d'années, avec toutes les conséquences qui sont observées en Grande-Bretagne et en Italie. Alors, l'autre écureuil présent en France, donc l'écureuil à ventre rouge. Donc cette espèce est originaire de. Alors c'est un écureuil qui a à peu près la taille de l'écureuil roux. Il fait 350 grammes environ. Il est originaire d'Asie et plus particulièrement d'Inde, Chine, Taïwan. C'est un écureuil qui est arboricole, qui a un comportement à peu près équivalent de notre écureuil roux. Il a été introduit sur le Cap d'Antibes, donc dans la région de Nice. Dans un premier temps, les responsables locaux pensaient que cet écureuil n'allait pas allait rester sur le Cap d'Antibes, puisqu'on a une barrière d'habitation qui est constituée par la ville d'Antibes et Joie-les-Pins. Mais en fait, les écureuils ont franchi relativement vite, au début des années 2000, cette barrière d'habitation. Et maintenant, ils commencent à coloniser à l'intérieur des terres. Et il est bloqué pour l'instant encore par l'autoroute A8, qui constitue une barrière à peu près efficace, mais sans plus. Alors le problème de cette espèce, c'est qu'en fait, il entre en concurrence avec l'écureuil roux. L'écureuil roux est quasi absent des secteurs où l'écureuil à ventre rouge est maintenant bien implanté. Et son plus gros problème, en fait, est un peu comme l'écureuil gris, il occasionne des dégâts assez importants par écorçage aux arbres. Ce qui est le plus ennuyant pour les résidents locaux, c'est que c'est un consommateur de fruits et de légumes. Il mange tout ce qui est dans les jardins potagers et dans les vergers. Et évidemment, il aime bien les olives aussi. Il a tout faux sur le plan local. Et en fait, il n'est pas du tout apprécié. Alors, comme l'écureuil gris, l'écureuil à ventre rouge est aussi présent en très forte densité. Et sur un secteur, par exemple, je vous donne un seul exemple, sur un secteur de 3 hectares et demi où j'ai piégé, en une année, j'ai capturé 87 écureuils sur 3 hectares et demi, pour vous donner une idée des densités. Alors c'est toujours pareil, quand il n'y en a pas beaucoup, ça ne pose pas de problème, mais à cette densité-là, et tout en pâtit, les oiseaux, les écureuils roux et surtout la végétation.
Alors, vous avez parlé d'un problème sanitaire concernant le tamia de Sibérie. Pouvez-vous nous en
Alors,
dire un peu plus?
là, on est dans la troisième situation, la situation du troisième cas de figure, le tamia de Sibérie. Alors, le tamia de Sibérie, c'est un petit écureuil qui fait 100 grammes, donc qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est vendu dans les animaleries. Il a été relâché en France par des propriétaires dans les forêts françaises. Actuellement, on a 22 populations en Europe et 11 populations en France, essentiellement en région parisienne. Ces populations sont relativement, pour certaines, relativement abondantes, et notamment il y a une population dans l'Essonne où il y a entre 10 et 20 000 individus. Ouais, c'est pas quelques animaux, mais dans la forêt de Sénart, qui fait à peu près 3 000 hectares, on a entre 10 et 20 000 individus. C'est assez énorme. Alors, c'est un petit rongeur de 100 grammes, donc qui niche dans un terrier. Il niche pas comme l'écureuil roux ou l'écureuil à ventre rouge dans un nid dans les arbres. Il niche dans un terrier. C'est un animal qui fait 2 portées par an et qui est donc assez prolifique. Alors, le principal Alors, on ne sait pas trop pour l'instant s'il a un impact sur l'écureuil roux. C'est pas évident. Il semble qu'il en ait un, mais pour l'instant, on l'a pas démontré. Par contre, il a une autre caractéristique, c'est que il héberge énormément de tiques de l'espèce Ixodes ricinus, donc l'espèce de tiques de litière qu'on rencontre dans les forêts lorsqu'on se déplace dans les forêts. Donc il héberge énormément de tiques. Et un animal adulte, en mai-juin, peut avoir une centaine de tiques en moyenne. Et notre corps, c'est un mâle qui avait 650 tiques sur la tête uniquement, parce qu'on compte sur la tête, mais celle-là principalement, ou sur le colis génétique. Donc, ils peuvent avoir énormément de tiques. Alors, les tiques sont des vecteurs de maladies. Et une maladie qui nous intéresse plus particulièrement et qui intéresse surtout les forestiers, c'est la maladie de Lyme, que vous connaissez certainement. Alors, je ne vais pas détailler le cycle de la tique et de cette maladie. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'écureuil de Corée, ou Tamia de Sibérie, est un excellent réservoir de cette maladie de Lyme. En fait, cette maladie de Lyme, ce sont des bactéries qui sont hébergées par des rongeurs qui sont porteurs sains de ces bactéries. Si une tique pique ce rongeur, et ensuite si cette tique nous pique, elle nous inocule la maladie. Et donc, comme le tamia a beaucoup de tiques, et comme le tamia est un excellent réservoir de cette maladie, on suspecte de jouer un rôle important dans le développement de cette maladie. Simplement deux chiffres, les deux principaux réservoirs, petits rongeurs autochtones, réservoirs de cette maladie sont le campagnol roussâtre et le mulot sylvestre. En fait, simplement 10% des mulots sont réservoirs, 10 à 30% des campagnols sont réservoirs. Et pour les tamias, c'est 35 à 70% des tamias qui sont réservoirs. Donc, c'est un excellent réservoir.
En 2 minutes, quelques pistes de solutions pour essayer d'éradiquer ou de limiter l'invasion de ces espèces.
Des pistes. Alors, en Angleterre, par exemple, pour l'écureuil gris, l'espèce est contrôlée. Elle est contrôlée par le tir, par l'empoisonnement, par le piégeage. Pour l'écureuil à ventre rouge, donc sur le Cap d'Antibes, il y a un plan d'action qui est en cours, qui va se mettre en place. Et là aussi, il y aura limitation de ces animaux par le tir. C'est un projet du ministère de l'écologie. Dans la mesure, ici, on est encore, disons, l'écureuil à ventre rouge occupe encore une surface relativement restreinte. Et donc, il est encore possible d'agir. Quant à l'écureuil de Corée, là, pas grand-chose à faire sur le terrain. Je pense que l'intervention, elle est en amont. Ce qui paraît évident, c'est d'arrêter de commercialiser cet animal, d'arrêter de vendre ces animaux dans les animaleries et aux particuliers d'arrêter de les acheter aussi, parce que c'est un peu ces animaux qui ne sont pas faits pour être en cage. Et donc, bon, on se dirige petit à petit vers une interdiction des ventes des suridés dans les animaleries, mais le tamia est encore. Grâce au, ouais, par le lobbying des magasins, est encore vendu, et j'espère pour plus très longtemps.
Merci. Alors passons maintenant aux espèces invasives ici dans notre région, avec vous, Michel Caillon. Et le premier constat que l'on peut faire concernant la région Poitou-Charentes, c'est un constat d'une grande diversité de ces espèces invasives ici dans notre région.
On peut dire qu'elle est de différents types. D'abord, elle couvre, si vous voulez, l'ensemble des grands groupes animaux et végétaux. Et on est surpris de constater que on a des différences en fonction de ces différents groupes, parce qu'il y en a sûrement qui sont plus facilitateurs que d'autres. Si on prend Poitou-Charentes comme dimension particulière, on a effectivement un nombre d'espèces invasives, grosso modo, qui tournent autour de la centaine. Parce que la définition de l'invasive, elle n'est pas toujours nette. Et il ne suffit pas d'être une espèce introduite pour qu'elle soit invasive. Une espèce peut être introduite et devenir invasive. À ce moment-là, si elle devient invasive, sa caractéristique, c'est qu'elle constitue une gêne qui peut être sur les milieux, des écosystèmes. Ça peut être une gêne sur j'allais dire, la santé humaine, et ça peut être aussi une gêne en ce qui concerne les activités économiques. Si on prend l'exemple de la région Poitou-Charentes, en ce qui concerne les plantes, on sait, vous m'aviez déjà posé la question, qu'il y a autour de 1800 espèces de plantes, grosso modo des plantes à fleurs, c'est-à-dire les plantes les plus représentatives. Je passe sous silence, si vous voulez, les espèces les plus petites et moins connues. Sur ces 1800 plantes, il y en a actuellement 60 qui sont à caractéristiques invasives ou potentiellement invasives. Si on prend les mammifères terrestres, eh bien, on a environ 75 espèces en Poitou-Charentes, et sur ces 75 espèces, il y en a 10 qui sont franchement invasives. Quand on pense aux espèces invasives, vous y pensez qu'elles peuvent être du type souris, rat, etc., écureuil, bon. Mais ça peut être aussi d'autres espèces, comme le wison d'Amérique qui a fait disparaître le wison d'Europe pratiquement. Les oiseaux nicheurs, je prends cela parce que c'est beaucoup plus difficile à apprécier quand on a des oiseaux de type migrateur. Les oiseaux nicheurs, c'est à peu près 150 oiseaux nicheurs qui existent dans la région Poitou-Charentes, et on en a entre 15 et 20 qui sont invasives ou potentiellement invasives. En ce qui concerne les reptiles, on en a 19 en Poitou-Charentes, et parmi eux, un certain nombre qui sont devenus véritablement invasifs, comme la tortue de Floride. Mais il y en a tout un tas d'autres qui sont échappés d'élevage, comme les écureuils tout à l'heure. Les batraciens. Mais les batraciens, on a 22 espèces, mais par contre, là, on a des espèces invasives qui sont extrêmement nocives. En particulier, on a le xénope du Cap, et qui est dans le nord des Deux-Sèvres, et qui s'est échappé d'un élevage objectif scientifique et de recherche. Et puis, on a aussi la grenouille taureau qui nous vient de la Gironde et qui finit par nous envahir actuellement. Mais il y en a d'autres, effectivement, qui existent, mais qui sont beaucoup moins répandus. Les poissons d'eau douce continentaux, eh bien, c'est peut-être là où on a le plus d'invasifs, parce que il y a celles qui ont été introduites pour les besoins de la pêche, et puis il y a celles qui ont été introduites de manière involontaire. Lorsqu'on a créé des canaux entre les grands bassins fluviaux, Rhône-Rhin, Rhin-Danube, etc., qui ont facilité la pénétration de la carpe, qui vient du Danube, du chandre, etc., du silure. Enfin bon, toujours est-il qu'il y a dans notre région 60 espèces à peu près, et puis il y en a 11 invasifs, ce qui fait quand même
on voit que 1%. Il y a un nombre d'espèces selon les domaines, hein, que ce soit les mammifères, les oiseaux, les reptiles, les batraciens, à peu près toutes les espèces sont touchées. Et au niveau des milieux, est-ce que là aussi tous les milieux sont touchés par ces espèces invasives?
Alors en ce qui concerne les milieux, il y a un certain nombre de milieux qui sont beaucoup plus propices que d'autres. Si on considère par exemple les milieux aquatiques, c'est peut-être là où il y a le plus de dégâts. Parce que s'ajoutent aussi bien des espèces animales que des espèces végétales, et ces espèces, par exemple, si on prend les espèces végétales, elles ont fait l'objet de programmes de recherche d'éradication, notamment pour ce qui est de la Jussie, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'autres espèces qui sont moins connues que la Jussie, mais qui sont tout aussi dangereuses, et qui font que, même à la limite, lorsqu'elles deviennent tellement abondantes, elles portent atteinte même, j'allais dire, aux activités de baignade, aux activités de pêche, etc.
Et selon les dégâts, est-ce que là aussi, il y a une diversité des types de dégâts occasionnés?
Alors là, on peut dire qu'on a souvent sous-estimé un certain nombre de dégâts, en particulier les dégâts d'ordre écosystémique, c'est-à-dire les écosystèmes qui risquent d'être, j'allais dire, anéantis même un certain nombre. Et là, on a effectivement dans notre région, par exemple, toute la région littorale, qui d'une part est une région qui est de plus en plus peuplée, qui est une région aussi qui a des caractéristiques particulières. notamment en ce qui concerne les types de milieux, les dunes, les rochers, etc., fait qu'elles sont très propices à l'introduction, ne serait-ce que dans les lotissements, d'un certain nombre de plantes qui sont décoratives et qui finissent par devenir invasives, comme par exemple les lentes dans les sables, comme l'acacia, comme le baccharis, par exemple. Ça, Jacques Pigeot le sait, il pourra vous en parler éventuellement tout à l'heure. Autre type de milieu, les milieux qui sont relativement pauvres en espèces. Alors, c'est ceux-là qui sont les plus, j'allais dire, atteints. Par exemple, les milieux pionniers. Les milieux pionniers sont vite envahis par des espèces qui font disparaître, par exemple, c'est-à-dire les bancs de sable. L'installation des roselières peut être menacée par un certain nombre de plantes qui s'installent et qui les empêchent de se développer.
Alors, est-ce qu'on sait comment ces invasions se sont produites? Est-ce que c'est l'homme qui les a introduites ou est-ce qu'elles sont arrivées naturellement sur le territoire?
Je crois qu'il y a toutes les catégories. Une espèce qui apparaît comme invasive, mais qui n'est finalement pas, et dont tout le monde a entendu parler, pratiquement, c'est la tourterelle turque. La tourterelle turque, elle est invasive si on prend comme caractéristique d'invasive qu'elle devient abondante. Par contre, elle ne cause pas énormément de dégâts, pratiquement pas, sauf quand elle va prendre des grains dans des silos ou des wagons, mais ça, c'est tout à fait limite. Je veux dire par là que cette espèce, elle est arrivée directement, naturellement. Peut-être parce qu'il y a des circonstances qui ont facilité la chose, mais toujours est-il, elle est peut-être un petit peu dépendante de l'homme, parce que c'est souvent dans des peuplements humains, jardins, etc., qu'elle se développe, parcs. Bon. Mais l'homme ne l'a pas introduite, ni volontairement, ni involontairement. Par contre, les introductions volontaires, comme Jean-Louis Chapuis parlait tout à l'heure, il y a, bien entendu, les jardineries. Les jardineries qui continuent à vendre un certain nombre d'espèces qui sont vraiment invasives et qui ont commencé à le faire dès le départ. Mais on peut aussi constater qu'il y a des moyens, des solutions pour lesquelles, pour les plantes, elles ont été introduites par mégarde. Hein, on peut citer parmi ces cas-là le cas de l'ambroisie, par exemple, qui a été introduite par mégarde, par tout simplement la circulation des hommes, les transports de matière, etc. Elle est venue d'Amérique, mais elle est venue aussi avec les chars américains. Bon, toujours est-il que ça, c'est tout à fait involontaire et c'est très fréquent.
Alors, est-ce qu'on a une connaissance aujourd'hui de ces différents processus d'invasion? Est-ce qu'il y a des schématypes? Alors, ils sont divers, parce qu'on l'a vu. Soit c'est une introduction humaine involontaire, soit volontaire. Et est-ce qu'on a des moyens, à partir de ces connaissances, d'essayer de les contrecarrer?
Alors, globalement, une espèce, pour devenir invasive, elle passe par plusieurs phases. D'abord, il y a la phase d'introduction. Et cette phase d'introduction, elle nécessite un certain nombre d'années, très souvent, pour que l'espèce s'adapte à ses circonstances. Par exemple, une espèce qui vient d'une région donnée, qui n'a pas tout à fait le même climat que chez nous, mais qui s'adapte bien à notre climat, mais elle le fait, mais au bout d'un certain temps. Par exemple, il faut qu'elle s'adapte à la photopériode, qui n'est pas la même sous nos latitudes que sous le climat tropical, par exemple. Mais ça nécessite ça un certain nombre d'années, un certain nombre d'ajustements par mutation, par exemple, et on arrive à ce moment-là à avoir une espèce, deuxième phase, qui se multiplie, mais localement. Troisième phase, il y a, si vous voulez, à ce moment-là, souvent un fond de colonisation, c'est-à-dire que l'espèce est propagée à nouveau par d'autres moyens, ça n'est plus par bateau, mais c'est par exemple, les moissonneuses-batteuses. Et puis, enfin, dernière phase, l'espèce s'introduit dans des milieux naturels et commence à les appauvrir ou à les modifier.
Et est-ce que cette connaissance du processus permet maintenant d'établir des stratégies?
Alors effectivement, tout le problème se pose de savoir quelles sont les stratégies possibles. On en discutait tout à l'heure en venant avec Jean-Louis Chapuis. On a, je pense, trop souvent travaillé sur la base pratique, j'allais dire évidente même, de travailler sur des espèces particulières, sans se soucier du contexte. C'est-à-dire qu'il y a une telle interdépendance entre l'espèce introduite et les autres espèces, qu'elles soient introduites ou pas introduites, avec le milieu, que maintenant, il faut penser de manière beaucoup plus systémique. La lutte doit être pensée d'une autre manière. On peut aussi la penser sous forme de prévention, on en a parlé tout à l'heure. La prévention, si vous voulez, le problème est le suivant. À quel stade peut-on agir? Est-ce qu'on peut décréter, par exemple, à un moment donné, qu'une nouvelle espèce qui rentre va être une espèce invasive? On ne peut pas. Si par précaution on le faisait, ça n'a pas de sens. Donc, la prévention, on peut le faire pour un certain nombre de choses. Les jardineries, par exemple, ou les vendeurs d'animaux, si vous voulez. Ça, c'est faisable. Mais c'est pas si simple que ça, de travailler sous l'angle de la prévention.
Une dernière question. On parle beaucoup du réchauffement climatique. Est-ce que le réchauffement climatique peut accélérer ces processus, les amplifier?
Alors là, on va avoir, j'allais dire, on sera obligé d'avoir une vision complètement différente des choses, je pense. Parce qu'on a déjà les premiers signes de l'impact du réchauffement climatique sur les espèces invasives. On sait par exemple qu'il y a des oiseaux qui commencent à migrer du milieu tempéré vers le milieu montagnard ou vers le secteur boréal. On sait aussi qu'on a déjà des espèces méditerranéennes qui montent, qui remontent par l'action de l'homme ou naturellement. Par l'action de l'homme, oui, par exemple au bord de la mer, le mimosa. Par l'action de l'homme, aussi, par l'olivier qu'on commence à planter un petit peu partout. Bon, mais il va y avoir d'autres espèces. Le ricin, par exemple, qui va commencer comme espèce, nitrophile, par exemple. Et on va avoir des espèces qui viendront du Cap, enfin, comme ça a déjà commencé.
On en reparlera peut-être dans la deuxième émission. Venons-en maintenant aux espèces marines qui sont présentes sur les côtes de la Charente-Maritime avec vous, Jacques Pigeot, du lien donc littoral, environnement et société. Donc une première question, est-on face à une grande diversité des espèces et des milieux aquatiques touchés ici en région Poitou-Charentes?
Oui, tout à fait. Alors, notre littoral, vous le connaissez, c'est le littoral de Charente-Maritime, donc c'est entre baie de l'Aiguillon et Estuaire de la Gironde. Et à ce niveau-là, nous avons plus de 40 espèces, environ 45, qui sont des espèces introduites. Mais peut-être en préalable, je pourrais rappeler les distinctions qu'il faut faire entre espèces adventices, introduites, invasives et transformeurs. Alors, une espèce est dite adventice quand elle est hors de son aire d'origine et qu'elle va effectivement s'implanter sans pour autant perdurer. Une espèce introduite va, elle, effectivement être introduite, comme son nom l'indique, et elle va se reproduire au niveau de son aire géographique, elle va rester là, mais sans pour autant bouleverser l'écosystème et la biodiversité. Une espèce va être à ce moment-là, introduite, on a dit invasive, quand elle va effectivement intervenir au niveau de la biodiversité. Elle sera transformeur quand elle va modifier totalement les écosystèmes. Et on a tout à fait des exemples de ces quatre types au niveau des espèces qui sont sur les côtes de Charente-Maritime. Un mot juste, j'ai dit qu'il y en avait une quarantaine, 45 précisément, et sur les plus de 100 qui sont à l'échelle de la métropole. Alors, on peut, tous les groupes sont quasiment représentés, mais quand même, essentiellement, les mollusques et les crustacés, très globalement. Vous voyez, et c'est de ces espèces-là qu'on pourra parler de tout à l'heure, avec même en mettant un petit clin d'œil au niveau d'une algue qui est extrêmement prolifique, même si on en a plusieurs qui sont introduites sur nos côtes, voire invasives.
Est-ce que c'est les mêmes raisons leur arrivée?
Alors, pas tout à fait, parce qu'on est quand même au niveau du milieu maritime, donc les activités marines sont bien entendu responsables de ces introductions. Alors, les espèces peuvent se fixer sur les coques de bateaux, ce qu'on appelle les espèces fooling, et puis on a d'autres qui, au contraire, viennent par les eaux de ballast, à la condition d'avoir des phases de développement qui sont pélagiques, c'est-à-dire qui vivent dans la colonne d'eau, et qui, lors des transports, effectivement, maritimes, et du relargage de ces eaux de ballast qui ont été prises par exemple sur les côtes pacifiques ou les côtes d'Amérique du Nord ou du Sud, peu importe, eh bien le relargage peut introduire effectivement à ce moment-là des espèces. Alors donc fooling et puis par l'aquaculture. L'aquaculture est un vecteur important, effectivement, l'introduction d'espèces, et notamment sur le côte de Charente-Maritime, c'est bien par l'aquaculture que les huîtres sont là, les palourdes, et des espèces qui viennent avec ces huîtres, qui sont portées par les coquilles qui sont des épibiontes, vous voyez, et qui vont se fixer, et même des espèces microscopiques qui peuvent se retrouver au niveau de l'animal à l'intérieur.
Alors justement, essayons de nous intéresser à cinq espèces qui ont été qui sont présentes sur les côtes. Alors avec des espèces introduites volontairement et qui posent a priori pas de problème, notamment l'huître.
Alors l'huître a été introduite volontairement effectivement à la suite de l'épizootie de 70, mais elle a été introduite de 1970, hein, vous me suivez bien. Elle a été introduite par contre fortuitement lors de l'incident du Morlaisien en 1868. Je dis bien 1800. Hein. Effectivement, il y avait donc l'exploitation de l'huître plate à l'époque sur nos côtes, et devant la pénurie des bancs qui se dépeuplaient, on a fait appel aux huîtres qui avaient été introduites sur les côtes du Portugal, au niveau des estuaires du Tage, et on les a ramenées au niveau du bassin d'Arcachon. Et en mai 1868, un navire, le Morlaisien, donc se présente au niveau des côtes du golfe de Gascogne, au niveau du bassin d'Arcachon, et il est surpris par la tempête. Il ne peut pas rentrer, les passes sont impénétrables. Donc il va relarguer au niveau des estuaires de la Gironde, et là, la cargaison s'avarie, les huîtres commencent à sentir, effectivement, donc il demande la permission pour les mettre par-dessus bord. Mais toutes ne sont pas mortes. Elles vont s'implanter sur les côtes et elles font le désespoir des ostréiculteurs d'alors parce que c'était pas l'huître noble, c'était pas la plate. Mais en 1920, quand l'huître plate a été frappée par une épizootie au niveau de son muscle adducteur, la maladie du pied, comme ils disaient à l'époque, eh bien les ostréiculteurs ont été bien contents de trouver cette huître creuse et ça a fait le bonheur et la richesse du bassin jusque vers les années 60-70. Et en 67, a commencé une épizootie sur la fameuse portugaise, qui est la même que la japonaise, et on a à ce moment-là fait appel à l'huître japonaise qu'on est allé chercher à la fois sur les côtes du Japon et en Colombie-Britannique. Et on a ramené avec ça d'autres espèces. Certaines sont restées, d'autres ont disparu.
Alors aujourd'hui, cette huître, elle connaît des soucis. Sa pérennité n'est pas assurée. On connaît toutes les raisons. Et puis, on va peut-être chercher une autre espèce pour la remplacer. Comment est-ce que ça...
Oui, ça, c'est pas facile. Alors juste un petit mot. Sachez qu'à Noël, vous en aurez encore. Elles sont d'excellente qualité. J'étais à Saveur Poitou-Charentes et croyez-moi que c'est un excellent produit. Faut le dire en passant. Cette huître, vous m'avez dit,
elle n'est pas assurée.
Alors, actuellement, depuis 3 ans, elle est frappée par des mortalités. Alors, les raisons sont multiples. Comme dit Ifremer, le médecin de nos amis ostréiculteurs, c'est multifactoriel. Alors, il y a effectivement les qualités d'eau. Il y a effectivement la présence au niveau de cette huître d'un virus qui est là, et quand les qualités d'eau affaiblissent effectivement l'huître, eh bien, doublée de façon culturelle avec des charges un petit peu importantes, eh bien, l'huître faible va effectivement développer la maladie virale et va mourir. Alors actuellement, il y a des soucis très sérieux. Et il n'y a pas de route de secours. Donc la recherche s'est focalisée sur des souches résistantes qui doivent se reproduire et qui permettront effectivement de relancer l'ostréiculture, il faut le souhaiter. Mais c'est une espèce introduite, ne l'oublions pas.
Alors, autre espèce introduite, la palourde japonaise.
Alors, la palourde a été introduite de volonté par Ifremer autour des années 80, 82, 83, 84 très précisément. Et à l'époque, on s'était dit, pour justement faire de la vénériculture, ça a changé, c'est Rudy Tapes, ça a été Tapes, on a dit tapiculture à l'époque, vous savez, tapis dépendant de santé, on n'a pas pensé qu'il était bon d'appeler l'élevage de la palourde tapiculture. Donc c'est la vénériculture. Alors ça a marché effectivement très bien, Ifremer a dit, pas de soucis, ça ne se développe pas dans le milieu. Mais pas de chance, la palourde a des larves pélagiques, et elles se sont développées dans le milieu, et c'est quand même quasiment une aubaine, puisque, enfin une aubaine, pas une aubaine pour la palourde autochtone, enfin il y a plusieurs espèces, mais surtout l'autochtone, Rudy Tapes decussatus, qui elle a vraiment régressé. Et actuellement, nos pêcheurs palourdes pêchent essentiellement de la japonaise. Et ça a fait chuter et disparaître quasiment la vénériculture pour deux raisons. D'une part, comme tout homme qui fait de l'élevage, il y a eu des charges extrêmement importantes. Et à ce moment-là, eh bien, ça a permis à une bactérie de se développer, le vibrio. Et ça a décimé par la maladie de l'anneau brun la vénériculture en marée. Et puis d'autre part, comme l'espèce s'est bien reproduite dans le milieu marin, eh bien, ma foi, les galopchenaux qui fonctionnent avec très peu de moyens ont proposé au commerce des palourdes à des prix défiant toute concurrence qui n'étaient pas à la hauteur de ceux qui pratiquaient les vénériculteurs. Donc
l'activité vérinicole a complètement périclité. Mais elle existe au Portugal et elle existe également en Tunisie et en Espagne.
Alors intéressons-nous maintenant assez rapidement à trois espèces qui elles sont plus perturbatrices, la sargasse, le crépidule et le bigorneau perceur japonais.
La crépidule et le bigorneau perceur japonais. Oui, alors la sargasse. La sargasse est une grande algue qui a été introduite en 1973 sur les côtes françaises au niveau de la Normandie, qui a été introduite avec des transferts d'huîtres. Elle s'est développée sur nos côtes, elle est arrivée ici en 85. Moi, je l'ai vu la première fois sur les côtes de Charente-Maritime, dans les bassins du Douai. Et c'est une algue qui est très belle, qui est une cousine de la sargasse, de la mer des sargasses, qui se développe de plusieurs centimètres par jour au printemps, qui peut atteindre pas la longueur de la salle, mais guère de moins, avec des inconvénients, on va y venir, et des avantages sans doute aussi. Alors, les inconvénients, ben, pour les passer en revue, hein, c'est effectivement qu'elle occulte le milieu dans lequel elle se développe, donc les autres algues ont des difficultés à pousser, et il y en a pour elle, et l'avantage, c'est que ça peut faire des réservoirs, des abris temporaires pour les espèces pélagiques, notamment les poissons.
Alors la crépidule, c'est un magnifique petit gastéropode, très ubiquiste, capable de s'adapter dans tous les milieux, pas difficile au niveau de la nourriture, compétiteur donc trophique avec l'huître, et également producteur de fesses de manière conséquente, et ça aide à la sédimentation. Et comme ça se reproduit, c'est la famille du haut de poil, on est empilé, on change de sexe avec l'âge, vous voyez, on est d'abord mâle, ensuite femelle, il y a un pénis qui est la taille quasiment de la coquille, enfin vous voyez, ne rêvez pas messieurs, mais ou mesdames plutôt, enfin il y a vraiment, c'est vraiment une espèce extrêmement prolifique. Actuellement, on en a à peu près au niveau de Marennes-Oléron environ 5000 tonnes et elles sont régulièrement pêchées, enfin pas les 5000 tonnes, mais à hauteur de 1000 à 2000 tonnes, donc l'espèce est contenue. Par contre, en baie de Bourgneuf, 50 000 tonnes. Il y en a autant d'huîtres. Vous voyez que ça pose des problèmes. Baie de Saint-Brieuc, 250 000 tonnes. C'est vraiment une invasion. Et le golfe normanno-breton aussi est très touché, la baie du Mont-Saint-Michel en l'occurrence. Alors, enfin, il y en a bigorneau-perceur. Alors, le bigorneau-perceur, c'est vrai que j'avais commencé mes recherches fin des années 90. Je tombe sur un bigorneau. Et ma foi, il n'avait pas tout à fait le même aspect, la même gueule, j'allais dire, que notre bigorneau perceur autochtone au Cenebra irinacea. Effectivement, il a regardé de plus près, identifié au muséum, justement, avec Josué, et puis confirmé par Roar au niveau de la Belgique, on s'est aperçu que c'était une bestiole introduite. Magnifique, hein, coquillage. Mais alors, attention, des stratégies de reproduction et de développement sans commune mesure avec l'autochtone. Ce qui fait qu'il a fait régresser l'ostréiculture en termes de parc à plat. Il peut manger, il mange une huître, il met du temps, remarquez, il met 3 jours pour manger une huître. Mais alors, un couple, il y a mâle et femelle, un couple produit 3000 petits. 3000 petits, alors rendez compte, il y en a. Alors, avec une quinzaine de tonnes là, dans le bassin de Marennes-Oléron, ça a anéanti l'ostréiculture à plat.
Alors, en quelques secondes, on arrive pratiquement à la fin de l'émission. Est-ce qu'il y a des stratégies pour faire face à ces...
Alors, des stratégies, ben, ma foi, c'est, ben, par exemple, le bigorneau, voyons. Alors, la seule stratégie qu'on a mis en place, ça a été de le ramasser méthodiquement avec une incitation au ramassage. On donnait 1 euro par kilogramme de bigorneau ramassé. C'était la section régionale conchylicole qui chapeautait ça, maintenant le comité régional de la conchyliculture. Et puis, l'autre astuce, c'est de brûler les pontes. Hein. Il n'y a pas 36 formules. Il y a une thèse là-dessus, mais la thèse a permis de mieux comprendre un petit peu tout ce qui se passait, mais elle n'a pas porté de réponse en termes de lutte d'éradication. Alors, il y a bien sûr les lois aussi. Ah, mais les lois, il faut les appliquer. Hein.
Alors, ce sera l'objet d'une deuxième émission que vous pourrez écouter demain soir, où on réfléchira plus sur les stratégies et les solutions à mettre en place. Merci à toutes et à tous, et bonne fin de soirée.